Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, je vous ai demandé si vous aviez été présents à Jérusalem alors que Jésus comparaissait devant Pilate, auriez-vous joint votre voix à celle de la foule qui demanda la libération de Barabbas et la crucifixion du Christ? Votre réponse, comme celle de beaucoup, serait probablement non, mais n'en soyez pas si certain. L'enseignement que cet homme de Nazareth répandait semblait étrange à première vue, mais était logique, raisonnable. Impossible de réfuter ses arguments. Vous vous seriez demandé, est-il un prophète? Serait-il le Messie, comme certains le pensent? Qu'auriez-vous fait pour répondre à cette question avec certitude? Auriez-vous consulté les grands chefs religieux de l'époque, les scribes et les pharisiens qui se moquaient de lui? Auriez-vous accepté leur réponse, qui vous aurait poussé à rejeter votre Sauveur et son enseignement? Ne répondez pas trop vite. Ou auriez-vous fait comme les Juifs de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact? Vous pouvez déterminer très facilement ce que vous auriez fait. C'est le Christ qui nous dit comment procéder. À ceux qui le repoussaient, qui se tournaient contre lui, qui rejetaient le message de vie que le Père adressait au monde par son intermédiaire, le Christ dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes et que vous dites « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. » Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Ceux qui affirmaient qu'ils n'auraient pas participé à la mise à mort des prophètes étaient ceux qui justement réclamaient la mise à mort du plus grand des prophètes, du plus grand serviteur que Dieu ait jamais envoyé dans le monde. Le Christ leur dit sans embâge, « Ce que vous faites aujourd'hui, c'est exactement ce que vous auriez fait si vous aviez vécu à l'époque des prophètes. » Le Christ savait qu'ils avaient déjà voulu le lapider à plusieurs reprises et qu'ils allaient bientôt être complices du meurtre du plus grand de tous les prophètes en réclamant sa crucifixion. Par conséquent, il savait qu'il se serait joint aux autres pour répandre le sang innocent des générations précédentes. Si aujourd'hui vous ne croyez pas la parole de Dieu, si vos croyances et votre façon d'agir est en opposition avec ce qu'affirment les Écritures, alors vous vous opposez à votre Sauveur et vous auriez probablement joint votre voix à celle de la foule qui demanda la libération de Barabbas et la crucifixion du Christ. Jésus avait dit à ses véritables disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » À l'exception d'une petite minorité qui voulait découvrir la vérité et la mettre en pratique, le monde de l'époque a haï le Christ, parce qu'il rétablissait la vérité et qu'il s'opposait aux religions qui l'avaient altérée. Il en est de même de nos jours. Si quelqu'un s'étonne de ce que nous annonçons, il rejettera sans doute ce message sans vérifier les Écritures ou alors, dans une minorité de cas, il suivra l'exemple des Juifs de Bérée pour vérifier ce qu'il entend. Nous trouvons aujourd'hui quantité de dénominations chrétiennes. Toutes affirment détenir la vérité et tirer leur croyance de la Bible, mais elles diffèrent dans leur enseignement. Cependant, le Christ n'a-t-il pas affirmé qu'il ne bâtirait qu'une église, une seule église qui serait son église? Il avait déclaré à l'apôtre Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. » Le prénom Pierre est traduit du grec « Petros », qui se rapporte à une pierre détachée, que l'on peut soulever, déplacer facilement, comme on peut le faire du pied avec les cailloux qui sont sur le chemin, ou que l'on peut ramasser et lancer contre quelqu'un. Quant au mot « pierre », il est traduit du grec « petra », c'est une fondation, un rocher solidement posé, intransportable et ferme comme une falaise, semblable à une paroi rocheuse. L'apôtre Pierre ne pouvait pas être cette fondation rocheuse. C'est le Christ qui l'est. Le prophète Ésaïe a écrit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Le psalmiste écrit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » L'apôtre Luc déclare « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » De son côté, l'apôtre Paul a écrit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Alors, quelle est cette Église que le Christ a bâtie? Elle est celle qui proclame le même message que Jésus annonçait lors de son ministère ici-bas. Un évangile qui annonce le royaume de Dieu que le Christ viendra établir sur terre, et non un message sur la personne de Jésus. Cette Église ne contredit pas les Écritures, elle prend en considération tous les versets et toutes les paroles du Christ, alors que tant de dénominations s'accrochent à ce qui conforte leur enseignement, et oublient volontairement ou non les autres passages qui s'opposent à leur doctrine. Enfin, l'Église que Dieu a bâtie n'enseigne pas le péché en prétendant que la loi est abolie. C'est aussi simple que cela. Voilà des paroles dures, penserez-vous. Et pourtant, qu'est-ce que le péché? L'apôtre Jean répond sans équivoque. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. L'apôtre Paul écrit « Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. » Par conséquent, si vraiment la loi est abolie, comme beaucoup l'affirment, le péché n'existe plus, et le monde actuel n'a plus besoin d'un sauveur. C'est logique. Enfin, Paul ajoute « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » La Bible déclare que le monde est séduit par Satan. C'est pourquoi il vit dans le péché. L'homme abhorre la loi divine, même la plupart de ceux qui se disent chrétiens. Ils affirment que la loi est abolie et que le Christ est venu clouer cette loi éternelle sur la croix. Il cite les paroles de Paul. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant sur la croix. » L'acte, selon le texte original, est une reconnaissance de dette manuscrite. C'est un aveu des péchés commis. Le Christ a effacé les péchés que nous avons commis pour autant que nous nous en repentions et que nous adoptions un nouveau mode de vie en conformité avec la loi. Voilà l'acte qui a été cloué sur la croix. Il n'est pas question ici d'avoir cloué la loi que Dieu a établie pour toujours. L'apôtre Pierre a déclaré « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » L'Éternel nous confirme par le prophète Ésaïe, « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Quant au roi David, il écrit, « Ô Dieu, efface mes transgressions, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Si vous acceptez que la loi est abolie, alors vous vous opposez au Christ, tout comme les principaux des Juifs, les scribes et les pharisiens se sont opposés à lui. Jésus a déclaré « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ici le mot « accomplir » est traduit du grec « plérou » signifiant « compléter, perfectionner ». Pour qu'il ne puisse y avoir aucun doute, Jésus poursuit en disant « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. » Jésus a affirmé à celui qui lui demandait ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle, « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Qui donc allez-vous croire? Allez-vous accepter le Christ aujourd'hui ou prendre le contre-pied de ce qu'il affirme en refusant de croire qu'il est bien resté 72 heures dans le tombeau, rejetant la preuve de sa divinité? Si c'est le cas, ne l'auriez-vous pas aussi rejeté si vous aviez vécu à Jérusalem? N'auriez-vous pas succombé à la pression des sacrificateurs et réclamé sa crucifixion? Voici d'autres exemples qui vous permettront de voir où vous en êtes. On vous a sans doute appris que vous avez une âme immortelle. Mais la parole inspirée de Dieu déclare « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». L'homme n'a pas une âme, il est une âme vivante qui devient une âme morte. Les animaux, tout comme les hommes, sont aussi des âmes. Le mot « âme » est tiré de l'hébreu « nefesh » qui se traduit par « créature ». Ce peut être un humain ou un animal. Dans plusieurs passages, ce mot se rapporte aux personnes mortes, aux animaux morts. L'expression « âme immortelle » ne se trouve pas dans la Bible. En parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait dit à Adam « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Mais depuis que Satan déclara à Ève « Vous ne mourrez point », l'homme ne cesse de croire le mensonge de Satan. On enseigne que dimanche est le jour du Seigneur, mais la Bible nous dit que le jour du Seigneur est le jour de sa grande colère. Pour appuyer l'observance du dimanche, on affirme que le Christ est ressuscité un dimanche, mais la Bible prouve qu'il est ressuscité le samedi, fin d'après-midi, après être resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, comme il l'avait annoncé. Nulle part dans la Bible, vous ne trouverez un passage transférant le repos hebdomadaire du samedi au dimanche. Le 4e commandement n'a jamais été modifié par Dieu. L'apôtre Paul écrit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Je vous pose la question « Qui croyez-vous ? » Les fêtes annuelles de l'Éternel ont été données à perpétuité. Le Christ les a toujours observées ainsi que les apôtres. C'est ce que prouve le livre des Actes et les écrits de Paul. Les hommes les ont remplacés par des fêtes d'origine païenne qui ne sont même pas mentionnées dans la parole de Dieu. Qui croyez-vous? Le chrétien ne doit-il pas marcher comme le Christ a marché, c'est-à-dire vivre comme il a vécu? Paul ajoute, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. » Plus de 60 ans après la mort du Christ, près de 40 ans après la mort de Marie, l'apôtre Jean écrit, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Si le ciel est la récompense de celui qui meurt, comment se fait-il que l'apôtre Paul écrit « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Lorsque Jésus parle de nous préparer une place, cette place est en préparation dans le ciel. Mais le véritable disciple la recevra après le retour du Christ, comme l'explique la parabole des talents et la parabole des mines. Tous ces exemples doivent vous permettre de savoir ce que vous auriez fait si vous aviez vécu à l'époque du Christ. L'auriez-vous considéré comme un imposteur et un faux prophète? Auriez-vous réclamé sa crucifixion? Ou auriez-vous vérifié les Écritures, constaté qu'il disait la vérité et devenu son disciple sans vous soucier des chefs religieux? Ce que vous faites aujourd'hui est votre réponse.